Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Noël Kilomba, conseiller à la Cour d'appel, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui nous parlons de l'abus de confiance, quelle procédure à suivre pour porter plainte en cas d'abus de confiance. Mais pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par abus de confiance?
Merci beaucoup. L'abus de confiance est une infraction prévue et punie par l'article 95 du Code pénal livre 2.
Oui.
Et d'abord, avant de parler de l'abus de confiance, il faut d'abord définir une infraction, c'est quoi.
Mm-hmm.
Il faudra que nos auditeurs sachent qu'effectivement, une infraction, c'est toute action ou omission qui porte atteinte à l'ordre public et qui est sanctionnée par une peine. Donc il y a les infractions d'action qui consistent, par exemple, pour une personne à poser un acte positif. Il y a les infractions d'omission comme la non-restance à la personne en danger.
Mm-hmm.
Donc une personne peut commettre une infraction en s'abstenant d'accomplir un devoir, tel par exemple ne pas assister une personne en danger. Vous comprenez. Mais ici, l'abus de confiance rentre dans ce qu'on appelle les infractions d'action. Et dans le code pénal, nous avons le livre premier qui parle des infractions à la répression en général. L'abus de confiance est repris à l'article 95, donc dans le livre 2, des infractions et les répressions en particulier. Qu'est-ce que c'est un abus de confiance? Au terme de l'abus de l'article 95 du code pénal livre 2, quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, dénier, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature, contenant ou opérant obligations ou décharges, et qui lui avait été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni de vie pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas 1000 zaïrs ou l'une de ses peines seulement. Voilà comment est-ce que la loi définit l'abus de confiance.
En d'autres termes, on peut dire que c'est vous remettez quelque chose à quelqu'un et la personne s'en approprie.
Bon, vous savez, pour qu'une infraction puisse être établie, il y a l'élément matériel, il y a l'élément moral. Et quels sont les éléments matériels de cette prévention d'abus de confiance? C'est, vous savez, l'abus de confiance est une infraction, d'abord, pour sa réalisation, nécessite d'abord l'existence d'un contrat civil préalable.
Je vais vous partir d'un exemple précis.
Je donne un exemple.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a des contrats civils translatifs de droits de propriété et des contrats civils non translatifs de droits de propriété. Je donne un exemple concret. Par exemple, les prêts à consommation. Les prêts à consommation, c'est un contrat qui est translatif de droits de propriété. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, il vous fait un prêt, c'est pour que vous puissiez consommer les produits du prêt. Et vous allez rembourser après.
Vous parlez de l'argent?
L'argent,
et
par exemple.
Si vous prêtez l'argent, 10 000 dollars.
10 000 dollars,
oui.
C'est pour consommer.
Oui.
Si vous ne restituez pas cet argent, nous ne tombons pas dans l'abus de confiance. Parce que pour que cette infraction se réalise, il faut d'abord un contrat civil préalable, non translatif de droits de propriété. Il y a le prêt à usage, il y a le prêt à consommation. Par exemple, quand on vous prête 10 000 dollars, c'est un prêt à consommation.
Oui.
Mais il y a le prêt à usage.
C'est-à-dire?
Je vous donne, par exemple, ma voiture pour l'utiliser, par exemple, pendant 2 jours et me la restituer. Mais lorsque vous recevez la voiture, vous allez vendre cette voiture-là. Voilà d'abord un préalable. Donc, l'abus de confiance ne se réalise que dans les... D'abord, comme préalable, il faut un contrat civil non translatif de droits de propriété.
Alors, par exemple, il faut qu'il y ait un document écrit?
Non, pas nécessairement.
Pas nécessairement.
Il peut avoir un document ou pas, d'abord qu'il y ait, que les prêts soient prouvés, les prêts à usage. Par exemple, les dépôts, par exemple, encore comme contrat, les mandats. Vous savez, on vous remet par exemple de l'argent, bon, vous allez à Bukavu, bon, vous avez, bon, voilà, vous allez à Bukavu, donnez-moi l'argent, je vais remettre à votre fils qui est étudiant là-bas.
Oui.
Vous allez avec cet argent, arriver là-bas, vous utilisez cet argent à votre fin sans le remettre au destinataire.
Et l'enfant appelle papa, mais ici, on me chasse, je ne sais pas faire des examens.
Il n'y a pas d'argent. Mais comment? Mais j'avais
donné l'argent.
Voilà. Donc, vous voyez que c'est un mandat. Donc, comme préalable d'abord, il y a les contrats civils préalables non translatifs des droits de propriété. Et ça peut être un prêt à usage, le mandat, les dépôts. Vous allez, par exemple, déposer vos cossettes de manioc dans un dépôt au marché. Et quand vous venez retirer ça, mais le propriétaire du dépôt a déjà vendu ça, il a dissipé les prix.
Oui.
Voilà comme préalable. En dehors de ça, maintenant, comme élément, il y a l'effet de détourner ou de dissiper. La dissipation, on voit ici une somme d'argent. Nous avons donné l'exemple, par exemple, de ce monsieur qui ramène l'argent à un étudiant qui étudie à Bukavu, qui est loin de Kinshasa, et qui dissipe. Donc, il dit l'argent à ses frères personnels.
Pour quelqu'un qui habite en Europe, il envoie l'argent à ses frères, achetez-moi une parcelle ou
voilà,
un bien
voilà.
À tel endroit.
Voilà.
Le jour où il vient pour voir l'endroit en question, il n'y a jamais eu de parcelle. L'argent
a
été bouffé.
L'argent a été bouffé. Là, oui. Il y a abus de confiance. Donc, il y a comme préalable d'abord les contrats civils non translatifs des droits de propriété, hein, mais quand c'est le prêt à consommation, là, il n'y a pas avis de confiance, hein. Là, c'est, il faut restituer. Mmh. Alors, il y a l'acte matériel de détournement ou de dissipation et il y a l'intention frauduleuse. La fraude.
La personne vous dira non, j'étais dans le besoin, l'enfant était tombé malade.
Non.
J'ai dû utiliser l'argent avec l'intention, la bonne foi de
Non. Effectivement, là, vous savez, la fraude, c'est quoi? C'est lorsque vous posez un acte même à l'insu du mandant, c'est lui qui vous a mandaté. À son insu, vous dissipez l'argent, il n'est pas informé, mais lui, il croit effectivement que vous allez accomplir le devoir qu'il vous a prescrit. Voilà dans quelles circonstances on peut parler de l'abus de confiance. Donc d'abord, l'existence au préalable d'un contrat civil, non translatif des droits de propriété, comme par exemple les gages. Hein? Moi, je viens prendre de l'argent chez vous, je viens vous me donner un peu d'argent, je vous laisse mon bien en gage, soit mon téléphone ou ma voiture, mais vous vendez les biens qui étaient mis en gage. Quand je viens vous payer votre argent, où est mon
téléphone?
Mon téléphone,
le téléphone n'est plus là.
Vous savez, n'est plus là. Voilà. Donc, c'est ça le préalable d'abord.
Oui.
Mais lorsque nous sommes dans le cadre d'un contrat translatif de droit de propriété, par exemple, les prêts à consommation, là, il n'y a pas de préalable d'abus de confiance. Hein? C'est une dette, donc on doit restituer. Et là, la dissipation, donc l'effet, par exemple, que vous dissipez les sommes d'argent, vous détournez, par exemple, par exemple, les bois qui vous étaient remis, par exemple, pour construire des meubles, vous menuisiez, et vous vendez ça. Donc, vous devenez...
Vous construisez, vous fabriquez peut-être des meubles pour quelqu'un d'autre.
Ah, quelqu'un d'autre, et vous le remettez.
Oui.
Là, effectivement, il y a détournement. Détournement. Et là...
Mais ça entre dans le cadre d'un abus de confiance.
D'un abus de confiance. Oui. Et là, vous le faites frauduleusement, c'est-à-dire qu'à l'insu... À l'insu du propriétaire.
Voilà.
Et vous ne savez plus le rendre compte.
Noël Kilomba, nous avons en ligne Michel Kamania qui a une question. Il nous appelle depuis Bounia. Bonjour. Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, quelle est votre question?
Bonjour à vous, j'ai dit, et bonjour à l'invité.
Bonjour.
J'ai besoin de savoir, c'est quelque chose que j'ai vécu et puis j'avais apprêté à quelqu'un d'argent pour qu'il puisse faire des business. La personne, il fallait qu'il me remette l'argent. Alors, il se passe des temps et des temps, il ne m'a pas remis l'argent presque une année. Je pars en justice pour porter plainte. On dit que ce n'est pas un habit de confiance. Alors, j'aimerais demander à l'invité qu'est-ce qu'il peut me dire concernant ça.
Oui, merci beaucoup, Michel. Effectivement, donc, vous avez contracté avec ce monsieur-là un prêt à consommation. Vous lui avez remis de l'argent pour qu'il fasse ses affaires et... Après, il pourra vous remettre votre argent. Donc ça, c'est un prêt à consommation. Donc ce prêt à consommation est translatif des droits de propriété. Donc, il n'avait pas comme obligation d'aller faire les affaires pour vous, mais de faire les affaires pour lui. Dans ce cas, il n'y a pas d'infraction, parce que c'est un prêt à consommation. Dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement, effectivement, la signer en paiement, en restitution de votre argent devant le tribunal de grande instance. Effectivement, vous savez, lorsque la contestation dans la loi, on parlait encore de 5000 zaïrs, c'est au niveau du tribunal de paix, mais vous savez, les zaïrs n'a plus cours légal. Donc, vous la signez, vous consultez soit un avocat, mais ou bien vous allez voir un greffier, vous êtes à Bounia, allez au tribunal de grande instance, il va vous aider à rédiger une assignation pour assigner ce monsieur-là en paiement, donc en restitution de votre prêt, et c'est avec dommage intérêt. D'ailleurs, vous pouvez d'abord voir les greffiers qui paient les sommets en dehors 48 heures. S'il ne satisfait pas aux obligations de cette sommation, vous la signez donc pour qu'il soit en matière civile. Et là, effectivement, dès qu'il sera condamné, et j'espère que il a quand même signé une décharge, parce que vous savez, au-delà de 2500 zaïrs dans la loi, il faut un écrit, il faut une preuve littérale. À ce moment-là, il pourrait être condamné. À ce moment-là, vous pouvez faire saisir ses biens.
Mais la personne vous dit, bon, je te rembourse l'argent dans 2 mois. Vous revenez et vous dites, bon, excusez-moi, j'ai eu quelques problèmes. Dans six mois après, c'est comme son cas, c'est allé jusqu'à une année. Alors, donc, il faut une assignation.
Et il faut une assignation devant le tribunal de grande instance.
On doit les contraindre à dire, bon, je vais payer dans 3 mois, par exemple.
On va les condamner à payer. Vous savez que en droit...
Mais si la personne a la bonne foi de payer, mais parfois, il y a des circonstances qui font que elle n'est pas en mesure de le faire maintenant.
Oui, effectivement, il y a les voies d'exécution forcées. D'abord, dans un premier temps, il faut qu'on la signe, qu'il soit condamné à payer ses prix. avec des dommages et intérêts moratoires, vu le retard dans les paiements à ce moment-là. Parce que vous savez, en droit, quel est le principe? Tous les biens du débiteur sont les gages qu'on met de ses créanciers. Lorsque monsieur Michel, je pense, vous aurez votre décision judiciaire, il pourra aller à l'appel, mais si la décision devient définitive, vous avez la possibilité de vous faire payer sur tous ces biens à tout moment.
C'est-à-dire lorsque avec vous dommages et intérêts.
Mais avec dommages et intérêts. Voilà. Alors, s'il a une maison, on peut déclencher la saisie immobilière et vendre la maison aux anciens.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Baudin Moutanda nous appelle depuis Kolwezi et puis Gabriel Bondo est également à Kolwezi. Voilà, salutations à tous les auditeurs de Kolwezi qui nous suivent en ce moment. Baudin, un bonjour.
Je dis Daniel Kachama aussi, bonjour à notre invité.
Oui, bonjour.
Oui, j'ai trois questions à poser. La première est celle-ci. J'ai donné à un bailleur 1000 dollars comme garantie locative. Alors, quelques jours après, il a pris l'argent d'une autre personne et cette personne a occupé la maison que moi je devais occuper. Bon, peut-on appeler ça un abus de conscience ou bien une escroquerie? Et la deuxième question, quelle est la différence y a-t-il entre un abus de conscience et une escroquerie? Et ma troisième préoccupation est celle-ci. Maintenant, sur le plan juridique, il semble qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour un problème de dette. C'est ce que consacre notre Constitution. Si quelqu'un vous doit quelque chose, est-ce que vous devez le porter plainte ou pas? Merci.
Voilà, merci beaucoup, c'est Baudouin. Et pour la première question, vous avez remis au bailleur de l'argent.
1000 dollars.
1000 dollars, et effectivement, et après, bon...
C'est une autre personne qui a occupé la maison.
Vous savez, ça, c'est effectivement... Ça s'apparente à l'escroquerie. Pratiquement, ça s'apparente à l'escroquerie. C'est comme aussi l'escroquerie à la dot d'un père qui fait épouser sa fille à plusieurs personnes. Vous comprenez? Donc ça, ce sont les... Il y a des indices d'escroquerie. Vous pouvez vous plaindre contre lui en justice pour... escroquerie pratiquement, parce que l'escroquerie c'est quoi? C'est juste l'effet de se faire remettre. Effectivement, l'effet de se faire remettre des sommes d'argent en faisant croire à l'autre partie l'existence d'une bonne entreprise. Or, en réalité, vous avez utilisé seulement des artifices et des mensonges. Des mensonges en vue de vous faire remettre de l'argent, alors que l'entreprise pour laquelle vous êtes fait remettre de l'argent, c'est une entreprise qui n'existe pas. Donc vous avez, c'est comme l'escroquerie à la dot. C'est l'escroquerie au niveau de la garantie locative. Donc pratiquement, vous plaignez pour l'escroquerie.
Voilà, deuxième volet de sa question, la différence entre abus de confiance et escroquerie.
Voilà, ces différences, effectivement, l'escroquerie et l'abus de confiance sont des infractions
très proches,
effectivement. Mais ce qu'il faudrait retenir, et là je penserai à mon professeur de droit pénal, le professeur Ileka. À l'époque, il nous avait donné une bonne différence entre l'escroquerie et l'habit de confiance. Dans l'habit de confiance, donc c'est vous-même, vous mandatez une personne. Vous-même, vous allez dans un dépôt, vous déposez votre argent. Vous comprenez? Hein? Mais dans l'escroquerie, l'escroc vient de lui-même chez vous. Voilà la différence. Donc pratiquement dans l'escroquerie, l'escroc s'est fait remettre. Mais tandis que dans l'habit de confiance,
c'est vous qui allez.
C'est vous. Oui. Vous mandatez quelqu'un. Vous dites, bon, prenez ça. Allez m'acheter ceci. Hein, voyez, vous mettez un gérant dans un magasin. Écoutez, vous vendez les marchandises. Et le soir, ou bien à la fin du mois, vous me donnez les produits de la vente. Mais dans l'escroquerie, l'escroc vient de lui-même. Il vous dit, écoutez, vous savez, à 50 km de Kinshasa, le téléphone que vous avez, on peut le vendre à 2000 dollars. Nous avons vu des gens qui venaient de l'Angola et disent non, mais ce téléphone ici en Angola, ça coûte 500 dollars. Donnez-moi, je vais vendre ça. Il part là-bas, il ne revient plus. Donc l'escroc vient de lui-même chez vous. Mais dans l'habit de confiance, comme nous vous avons dit, effectivement, ici, vous-même, soit vous mandatez quelqu'un, soit vous allez vous donner un prêt.
Voilà, rapidement, il dit troisième question, troisième volet de sa question. Oui. Si quelqu'un vous doit, faut-il l'assigner en justice?
Effectivement, si quelqu'un vous doit de l'argent, si c'est le cas d'une dette, il faut la signer. Nul ne peut se faire justice à soi-même.
Voilà.
Alors,
nous allons recueillir une autre question de Benjamin depuis Isiro. Bonjour.
Merci, bonjour, monsieur Jédicacien.
On vous écoute.
Oui, ça va. J'aimerais te poser une question à notre invité.
Oui.
Si, par exemple, j'ai mon téléphone comme ça et puis j'ai vendu ça à une personne. Et celui-là m'a donné une tranche d'argent. Maintenant, on a signé un papier comme ça, le décharge. C'est ça qu'il va rembourser après une semaine. Et lui, il n'a pas remboursé. Dans ces cas-là, c'est l'escroquerie ou encore c'est l'abus de confiance. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour récupérer cet argent? Deuxièmement, quelqu'un qui est à Kisangani, par exemple, moi je suis ici à Isiro, je lui envoie mon argent, fait qu'il m'achète des produits, par exemple, et lui, maintenant, il consomme cet argent-là. Et on n'a pas signé des décharges. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer cet argent? Est-ce qu'on peut traduire celui-là directement à la justice?
Oui. Et la première question, effectivement,
Il a vendu un téléphone.
Un téléphone, oui.
Oui, et puis la personne a versé une partie d'argent. Et puis, pour donner la partie qui reste, ça devient un problème.
Effectivement, là, c'est une question de vente. Hein. L'article 264 du Code civil livre 3 dit la vente est parfaite dès qu'il y a accord sur le prix, sur la chose. Donc, c'est un cas de contrat de vente, mais c'est la vente à tempérament. Donc, il devait payer d'une façon échelonnée. Mm-hmm. Et comme il n'a pas payé, vous avez la possibilité. Ce n'est pas le cas d'abus de confiance. Mm-hmm. Au sens large du terme, on peut parler, mais pas au sens du droit pénal. Vous savez, le droit pénal est autonome. Le droit pénal ne tire pas ses définitions du droit civil. Mm-hmm. L'abus de confiance est une infraction pénale. Donc, pratiquement, il peut avoir abus de confiance dans le sens large. Mais au sens pénal, il n'y a pas abus de confiance. C'est le cas d'une vente. Et dans ce cas, vous avez la possibilité de la signer, soit pour qu'il s'exécute pour le reste, soit en résolution de la vente, et puis vous recevez votre téléphone avec dommages et intérêts.
Mais généralement, quand il y a des problèmes comme ça, les gens vont à la police, ils vont voir
la police.
Et puis, les policiers viennent arrêter la personne.
Non. Là, effectivement, là, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour une dette. Ça, c'est le cas d'une dette. La non-exécution d'une obligation civile ne peut pas faire l'objet d'une arrestation. Il n'y a pas d'infraction là-bas. Mais du moins, vous pouvez saisir les juges civils pour qu'ils puissent soit les condamner à payer les restes ou avec dommages et intérêts. Et à ce moment-là, vous serez établi dans vos droits.
Voilà. Et Benjamin a dit également qu'il a envoyé de l'argent à Kisangani, par exemple, pour qu'on lui achète des marchandises. Après, son correspondant à Kisangani a consommé pratiquement l'argent et il n'y a pas de trace, il n'y a aucun document.
Voilà.
Que doit-il faire dans ce cas?
Voilà. Vous savez, ici, effectivement, là, nous tombons dans le cas d'abus de confiance. Parce que vous voyez, la loi dit même, quiconque frauduleusement détourné soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, déniés, marchandises. Donc la loi parle expressément des marchandises. Donc ici nous sommes dans le cas d'un abus de confiance et dans ce cas il faut vous plaindre devant l'officier du ministère public, l'officier du procureur pour qu'on puisse l'entendre. Bien sûr le problème de preuve se posera, qu'on puisse d'abord l'entendre. Lorsque au niveau de la police, l'OPJ va l'entendre, il va donner ses déclarations, il peut demander un délai.
Là il faut aller à Kisangani.
Effectivement s'il est à Kisangani, le tribunal compétent c'est à Kisangani, mais il peut se plaindre même à distance, c'est pas interdit.
Oui.
Il peut écrire au procureur de la République de Kisangani avec l'adresse de intéressé, on va ouvrir un dossier et on va les poursuivre. Ça, c'est le cas d'abus de confiance.
François Mukendi, depuis Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, je voulais demander un peu à notre invité qu'il nous dise un peu l'essence de cette expression qu'on trouve un peu partout là. On dit que pour pêcher du poisson, il faut un hameçon. Donc, pour pêcher de l'argent, il faut encore de l'argent. C'est-à-dire, quand vous allez en justice, vous plaignez, on vous dit non, il faut payer autant pour qu'on poursuive votre accusé, ainsi de suite. Bon, moi, je vous pose un peu le problème. Il y a quelqu'un qui a son immeuble quelque part, mais il envoie des gens dans une agence immobilière. Et là-bas, quand quelqu'un se présente, on dit non, il y a une maison quelque part là, on peut aller... Bon, quand vous partez, ils savent que cette maison, on ne va pas vous la donner en location. Mais on vous dit, bon, ça se fait un prêt dans une semaine ou deux. Versez seulement l'argent. On a versé 1 500 $. Le monsieur, après nous, il a pris l'argent d'autres personnes, et ainsi de suite. Et ça fait plus de 90 000 $, quelque chose comme ça. Bon. Et vous partez pour prendre la maison. On vous dit, non, bon, il n'y a pas moyen. Bon, attendez, on vous... Bon, venez maintenant prendre votre argent. Vous partez... Il vous remet pas l'argent, il vous remet chaque jour les rendez-vous. On va se plaindre, on vous dit non, comme c'est 1 500, donnez 200 $, donnez 300, donnez 150, ainsi de suite. Bon, quand vous n'avez pas l'argent à verser, et vous trimez comme ça, ou le peu d'argent que vous donnez, la personne est connue sur la ville, il y a même beaucoup de services de sécurité qui le connaissent, et on vous fait marcher. Et je voudrais savoir un peu combien il faut payer pour les frais de justice, et puis, ça, c'est l'escroquerie ou l'abus de confiance. Parce qu'il a dit que l'abus de confiance, on va vers la personne et l'escroquerie, la personne vient vers vous. Mais là, nous sommes dans une agence, il y a des gens qui nous amènent vers la personne. Je ne sais pas comprendre. Il y a moins de vous expliquer un peu.
Voilà. Oui, merci beaucoup de cette question-là. Comme l'avons dit, hein, l'escroc vient de lui-même. Il peut venir de lui-même de plusieurs façons. Il peut ouvrir une agence, hein. Il peut ouvrir une agence, il dit, écoutez, moi, j'offre tel service, alors qu'en réalité, c'est une entreprise tout à fait criminelle. Donc, le fait que l'escroc vienne de lui-même, il peut même faire des publicités. Moi, j'ai travaillé à Kananga, il y a un monsieur qui s'était dit représentant des insiders, et il était en train de recevoir de l'argent, et alors qu'il n'était pas connu par cette ONG au niveau de Kinshasa.
Oui.
Vous comprenez? Donc, ici, ce sont des comportements qui s'apparentent à l'escroquerie.
Maintenant, le deuxième problème, c'est que les frais de justice, il va en justice, il a perdu l'argent, on lui demande encore de payer beaucoup d'argent.
Voilà, il faut voir d'abord quand il va en justice. Bon, vous savez, il y a l'organisation compétente judiciaire, il y a le parquet, il y a le tribunal. Effectivement, le parquet est habilité à poser des actes d'instruction, tout ça, ainsi de suite. Mais au cas où vous estimez que, au niveau du parquet, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire ce qu'on appelle une citation directe. Alors là, il faut consulter les avocats de manière à ce que le tribunal soit saisi directement. Je vous dis que...
Sans débourser aucun frais.
Non, il y a toujours les frais pour la consignation. Et ces frais sont minimes, franchement.
Mais quand il parle de 200 à 300 dollars...
Non, la consignation des frais, effectivement, pour le moment, c'est 5 dollars.
$5
ça ne va pas au-delà de $10. Je vous dis, la consignation est tout à fait minime. Nous avons les frais de justice les plus bas dans notre pays.
Voilà.
Donc, dans ce cas, il peut saisir directement le tribunal pour les poursuivre.
Voilà, on va accueillir rapidement les réactions. Pierre Tangoua, depuis Kananga. Bonjour. Pierre, bonjour. Voilà, Pierre n'est plus là en ligne. José Nteta, depuis Mujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre question?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Au cas où vous avez remis une somme.
Voilà, José est parti. Blanchard, Luana, depuis Mbandaka, bonjour. Blanchard, vous êtes en ligne, bonjour. Blanchard, vous êtes en ligne.
Oui, bonjour.
Oui, allez-y.
Oui, ma question est celle-ci. Quand est-ce que l'insolvabilité d'une dette peut devenir un habit de confiance? Ça, c'est la première question. Et la dernière, le non-respect du délai d'une dette peut être qualifié comme un habit de confiance.
Voilà, merci beaucoup de cette question. Effectivement, comme nous l'avons dit, l'habit de confiance suppose préalablement l'existence d'un contrat civil non translatif de droits de propriété. Or, en cas de prêt à consommation, ce qu'on appelle communément la dette. Donc, pratiquement, ce n'est pas un contrat civil tout à fait. La dette, quand vous donnez un prêt à consommation, il y a. Donc le prêt, là, devient. L'argent donné comme prêt devient une propriété de la personne qui doit la consommer.
Mm-hmm.
Donc, l'insolvabilité ne peut jamais devenir le cas d'habit de confiance. En cas d'insolvabilité du débiteur, vous avez une action civile pour recouvrer votre dû devant le tribunal de grande instance. Et là, il sera condamné à la restitution du principal et des dommages et intérêts. Alors, je crois que même la deuxième question...
Le non-respect du délai.
Le non-respect du délai
l'échéance
a comme conséquence des dommages et intérêts moratoires. Là, il faut la signer en matière civile. Ce n'est pas le cas d'habit de confiance. Donc, le cas de dette n'est pas habit de confiance. Il y a habit de confiance dans le cas de... Quand il y a toujours comme préalable un contrat civil non translatif de droits de propriété, comme le gage, le prêt à usage, le mandat, vous comprenez les mandats. Donc, pratiquement, ce sont ces contrats-là, les dépôts, par exemple, aussi, qui peuvent être des préalables à l'habit de confiance.
Alors, une dernière intervention. Voilà. José Nteta de Pungujumaï, bonjour. José, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Allez-y.
Oui, je voulais intervenir comme ça. Au cas où vous avez remis une somme importante d'argent, par exemple, $2,000 à quelqu'un, qui va voyager pour l'Afrique du Sud, à remettre à un de ton frère, par exemple... Et la personne arrivée chez lui la même nuit-là, un voleur vient voler cet argent-là. Dans ces cas, est-ce que les codes prévoient ce genre de fait?
Bon, effectivement, si la personne a été volée, d'abord, la preuve qu'elle a été volée, elle doit se plaindre. Donc, vous ne pouvez pas déclarer à la cité qu'on vous a volé du moment que vous n'êtes jamais plaint devant l'office du procureur de la République. Donc, si vous avez été victime d'un vol, il faut vous plaindre. Mais la personne n'a pas à vous dire, voilà, on m'a volé. Mais il faut lui demander quelle est la preuve que vous avez été volé. La preuve qu'on a été victime d'un vol, c'est le dépôt d'une plainte contre Kony à l'office du procureur de la République. À ce
et
moment-là,
comme la personne est en Afrique du Sud, elle doit porter plainte là-bas.
Non, mais elle doit porter la plainte là où le vol a été commis. Si le vol a été commis en Afrique du Sud, elle doit se plaindre et prouver à son mandat, parce que à son mandat effectivement, parce que lui il est mandataire, mais prouver au mandat effectivement que il a été victime d'un vol. Et la preuve de ce vol, c'est quoi? C'est l'enregistrement d'une plainte contre inconnu à l'office du procureur de la République, soit à Johannesburg, soit à Kinshasa. À ce moment-là, on va attendre l'issue des enquêtes. C'est ça. Mais si la personne n'a pas posé une plainte, ne s'est pas plainte devant la justice, et n'a pas à vous dire, voilà, elle a été victime d'un vol. Sinon, ce vol n'est qu'imaginaire, n'est qu'une sorte d'artifice pour essayer de vous détourner votre argent. C'est tout.
Alors, donc, en cas d'abus de confiance, il faut aller voir directement au tribunal de paix.
Effectivement, le tribunal compétent, c'est le tribunal de paix.
Oui.
Et mais il faut passer par le procureur de la République parce que cette infraction est punissable du maximum de 5 ans. Mais ce qu'il faudra aussi retenir est que si avant de vous plaindre, effectivement, il arrive effectivement que la personne restitue l'argent, eh bien l'infraction n'existera plus.
Van Alumbashi vous pose cette question. Vous dites qu'on peut être arrêté pour abus de confiance. Mais la Constitution ne dit-elle pas que nul ne peut être arrêté pour dette d'argent?
Voilà, c'est comme nous l'avons dit. Et effectivement, même les instruments internationaux ratifiés par la RDC sont clairs. Personne ne peut être arrêté pour la non-existence d'une obligation civile. Ici, il est question des mandats. Donc, pour notre ami de Lubumbashi, qu'il sache que pour qu'il y ait avis de confiance, il faut un contrat civil préalable, non translatif des droits de propriété. Par exemple, les gages. On vous dit, c'est bien, on vous remet un gage, vous ne le vendez pas. Mais quand vous le vendez, vous comprenez? Donc, vous commettez l'abus de confiance. C'est une exception.
Il y a les et on peut vous arrêter.
On peut vous arrêter. Oui. On peut vous arrêter. C'est comme on vous laisse, par exemple, les dépôts. On peut vous constituer gardien, par exemple, d'un lit. D'un lit. Pendant 10 ans. Et lorsque le propriétaire du lit retourne.
Vous avez déjà vendu
les lits. À ce moment-là, c'est un abus de confiance.
Voilà.
Là, on va vous arrêter.
On va vous arrêter. Noël Kilomba, conseiller à la Cour d'appel, je vous remercie.
Merci beaucoup.